Salut à tous, je suis Blanche Caron et je suis aujourd'hui en présence de Jean-Guy Prévost. Bonjour Monsieur Prévost.
Bonjour.
Jean-Guy Prévost est enseignant des sciences politiques à l'UQAM. Il donne un cours sur les régimes totalitaires. C'est pourquoi il est en mesure de nous en apprendre plus sur l'histoire du nazisme, surtout dans la première moitié du 20e siècle avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, Monsieur Prévost, dites-nous, qu'est-ce qui a, selon vous, poussé un si grand nombre de personnes à joindre le mouvement nazi dans les années 1920?
Mais d'abord, on doit dire qu'au début, il n'y a pas eu tant de personnes que ça qui ont rejoint le mouvement nazi. C'est resté un mouvement un peu aux marges du système politique. C'est un mouvement qui avait un certain succès, mais limité. L'appui au mouvement nazi a véritablement explosé à la faveur de la grande crise économique. Alors, au moment de la crise économique de 1929 aux États-Unis, il y a eu un contre-coup très fort en Allemagne parce que l'Allemagne, qui avait des dettes de guerre importantes, dépendait beaucoup de l'aide américaine. Et là, l'aide américaine ne pouvait plus arriver. Il y a eu énormément de chômage de façon très brusque et le parti nazi, qui depuis une dizaine d'années faisait campagne contre le traité de Versailles qui imposait justement des réparations monétaires aux autres pays, ce parti-là a véritablement connu une audience très forte et a commencé à recruter massivement. Et il a obtenu des succès importants dans les élections au début des années 30. Il a obtenu jusqu'à 37% d'appui dans l'électorat. Donc ça, c'est le maximum qu'il a obtenu en 1932. Donc, c'est un appui considérable. C'était le parti qui avait le plus d'appui à ce moment-là. Ça n'a pas été un appui de plus de 50%, là. Ça reste un appui à 37%.
Ensuite, ce qui a aidé à faire grandir le mouvement nazi, c'est le président de la République allemande, le maréchal Paul von Hindenburg. Pourquoi aurait-il décidé contre son gré de nommer Hitler à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933?
Bon, donc il y a eu ces élections en 1932 où le parti nazi avait obtenu beaucoup de voix. Il a été impossible de constituer un gouvernement, comme on dit, qui avait la confiance de la Chambre. C'est-à-dire qu'il était impossible que les partis s'entendent sur un gouvernement qui obtiendrait l'appui de plus de la moitié des députés en Chambre. Parce que les partis forts en Chambre, il y avait le parti nazi, il y avait le parti communiste, il y avait le parti social-démocrate, c'est les trois grandes forces, ils s'entendaient pas ni l'un ni l'autre. Donc, c'était difficile de trouver une coalition qui puisse soutenir un gouvernement. Il y a eu d'autres élections en novembre 1932. L'appui au parti nazi a baissé un peu, mais ça n'a pas résolu le problème. Il est encore très difficile de trouver une coalition qui fonctionne, parce qu'on excluait d'emblée que cette coalition-là soit dirigée par Adolf Hitler. Et il y a eu toute une série de transactions tout au long du mois de janvier 1933. Il y a un très beau livre d'un historien américain qui s'appelle Turner, qui s'appelle, on pourrait traduire par 30 jours en janvier, quelque chose comme ça, janvier 1933, 30 Days to Power, je pense, le titre original, qui raconte toutes les tractations entre partis, entre le président du pays, qui a pour tâche de nommer le chancelier, qui est le chef du gouvernement, et ces partis-là. Et finalement, on a réussi à constituer une coalition dominé par le parti nazi, mais avec plusieurs petits partis nationalistes, partis de droite, et ensemble, ils pouvaient obtenir la confiance de la Chambre. Et ça apparaissait à plusieurs comme la seule solution à cette crise gouvernementale. Probablement que la plupart des gens qui ont donné leur consentement parmi ces chefs de petits partis pensaient que ce serait une solution temporaire, et qu'éventuellement on remplacerait Hitler par un politicien plus traditionnel. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées.
Peu après que Hitler a été nommé à la chancellerie, il y a eu l'incendie du Reich le 27 février 1933. Quelles ont été les conséquences de cet incendie sur le nazisme?
Bon, le Reichstag, c'est le Parlement, c'est le bâtiment du Parlement, comme le Parlement à Ottawa. Et effectivement, peu après la nomination de Hitler au poste de chancelier. Il y a un incendie criminel qui a eu lieu au Reichstag. Très rapidement, on a arrêté sur les lieux un communiste néerlandais qu'on a accusé d'avoir mis le feu et de faire partie d'un complot communiste plus global, et on a arrêté d'autres personnes. À cette occasion-là, le gouvernement, sur proposition d'Hitler, a adopté une loi d'urgence. Et ça a donné beaucoup de pouvoir à la police. Et ça a été un point tournant, puisque ça montrait qu'il y avait un ennemi terroriste qu'on devait écraser et qu'on pouvait faire confiance au gouvernement qui était là pour le faire. Et comme ça a débuté le processus qui a mené d'abord à l'interdiction des communistes, puis à l'interdiction des socialistes, puis à l'interdiction du Parti catholique, puis à l'interdiction de tous les autres partis, puis à l'interdiction des syndicats. Donc, très rapidement, tout au long du printemps 1933, alors même que se déroulait le procès d'incendie du Reichstag, procès dans lequel on a innocenté le principal responsable communiste qui était accusé. Par contre, on a considéré que celui qu'on avait arrêté le premier jour était coupable. C'est un événement sur lequel on n'a jamais tout à fait la lumière. On a pensé que ça avait peut-être été planifié par les nazis eux-mêmes, mais il n'y a pas de preuves qui subsistent, qui permettent de trancher définitivement la question. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont profité de ça pour instaurer l'état d'urgence. Mais le procès lui-même s'est retourné un peu contre les nazis. Il a été clair pour les juges qu'ils avaient fabriqué des preuves dans certains cas.
Il est très connu que les nazis brûlaient beaucoup de livres. Pourquoi feraient-ils cela et quels étaient les types de livres qu'ils brûlaient?
Très vite, effectivement, les nazis ont organisé ce qu'on appelle des autodafés. Ça consiste à brûler des livres. Alors, évidemment, tous les livres de ceux qu'ils considéraient comme étant leurs ennemis politiques, communistes, socialistes, etc. Tous les livres d'auteurs juifs, tous les livres qu'ils considéraient comme étant de la littérature dégénérée, enfin, tout ce qui heurtait leurs valeurs nationalistes ou raciales, risquait évidemment d'être brûlé. Donc, il y a eu vraiment très rapidement... beaucoup de livres ont été interdits. Les brûler, c'est un acte symbolique, mais en fait, c'est que ces livres-là étaient interdits. Plusieurs écrivains ont quitté l'Allemagne à ce moment-là, se sont exilés vers l'étranger.
Le 15 septembre 1935, il y a eu en place les lois de Nuremberg par les nazis. En quoi consistaient ces lois?
Bon, les lois de Nuremberg sont essentiellement des lois raciales. C'est des lois qui visaient à codifier les rapports entre ceux qu'on désignait comme les Aryens, ou les Allemands purs, et ceux qui ne l'étaient pas, essentiellement des Juifs. Donc, pour faire cela, par exemple, on interdisait les mariages, les relations sexuelles, et ainsi de suite, mais pour faire cela, il fallait définir qui était Juif et qui ne l'était pas. Et là, ce n'était pas un problème simple, parce qu'il pouvait y avoir des gens qui avaient un parent juif, un parent non-juif, un grand-parent juif, trois grands-parents non-juifs, trois grands-parents juifs, un grand-parent non-juif. Donc, tous ces cas de métissage, et les lois de Nuremberg fournissaient, si on veut, des critères pour départager ça. Donc, c'est la mise en place de la politique raciale qui va... éventuellement déboucher sur le génocide des Juifs. Pour exterminer les Juifs, il faut d'abord définir qui est Juif, et c'est ça que les lois de Nuremberg faisaient. Je ne dis pas que les lois de Nuremberg, on les a faites en vue d'exterminer les Juifs, mais la façon dont on les a faites, c'est une des choses qui a permis l'extermination.
Ensuite de ça, quelle marque le nazisme et son mouvement ont-ils laissé dans le monde? Est-ce que il y a encore des partisans de cette idéologie?
C'est sûr que après 1945, le nazisme a été défait de façon non équivoque sur le champ de bataille. C'était assez gênant de se réclamer du nazisme. Ce qui fait que dans la plupart des pays qui ont été directement impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, aux États-Unis, en Amérique. Si on trouve des mouvements néo-nazis, généralement, ils sont marginaux. C'est des nostalgiques. Et puis, c'est pas quelque chose qui, politiquement, a beaucoup d'influence. En revanche, il y a un certain écho des idées nazies qu'on va trouver, par exemple, dans les pays musulmans, encore aujourd'hui, essentiellement parce qu'on tout le conflit entre Israël et le monde arabe, disons, est retraduit, si on veut, ou peut être retraduit dans un langage qui était celui des nazis. Je m'explique ici. Israël a été créé après la Deuxième Guerre mondiale en réaction à l'extermination des Juifs avec l'aide des puissances occidentales contre, si on veut, les populations arabes de la région. Donc, il y a eu une tendance dans un certain nombre de pays arabes à accéder à l'idée que, ou accepter l'idée que le génocide était quelque chose qui avait été exagéré, voire imaginé. Donc, toute la négation du génocide qui est très, très marginale en Occident, elle a plus de place là, puisqu'on peut la réinsérer dans une histoire un peu plus longue, là, que celle de la création d'Israël. Et là, ça peut être présenté, là, le génocide, comme un sont le prétexte qui est pour la création d'Israël. Donc, il y a un certain écho encore. Ça explique que, par exemple, Mein Kampf était massivement diffusé dans les pays musulmans. Maintenant, il va circuler plus librement, même en Allemagne, semble-t-il.
Pour terminer, comment définiriez-vous l'idéologie et le mouvement nazi?
Ben, essentiellement, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il y avait beaucoup de courants là-dedans, mais je vais simplifier les choses un peu à l'extrême en prenant Hitler comme le centre de ça. Ben, l'idéologie nazie, c'est d'abord un racisme biologique. C'est l'idée que l'histoire est essentiellement une lutte entre les races et les races sont définies biologiquement. Et il y a une hiérarchie entre ces races biologiques. Les Aryens sont au sommet. Les Juifs sont au fond, si on veut. Donc, c'est une idéologie qui est d'abord raciale et raciste. Ça, c'est un volet important. Le deuxième volet, c'est aussi une idéologie impérialiste, c'est-à-dire qui cherche à conquérir des territoires. Ça, c'est lié au fait que la population allemande, démographiquement, était assez imposante, vivait sur un territoire relativement restreint. C'est un pays qui s'industrialisait, qui voulait assurer son autarcie économique. Donc, ça a amené le mouvement nazi à vouloir conquérir des territoires, surtout du côté de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Russie. Puis, il y a tout un aspect de la guerre qui est la conquête de territoires de ce côté-là. Il y a l'attaque vers la France, vers l'Angleterre. Ça, c'est moins pour conquérir des territoires que pour neutraliser des armées puissantes qui pourraient s'opposer à nous. Mais si on prend la guerre en direction Est, l'attaque de la Pologne en 39, et puis l'attaque de la Russie en 41, ça, c'est vraiment une guerre de conquête de territoire.
D'accord. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'en apprendre autant. Merci de votre temps, M. Prévost.
Ben, je vous en prie, ça me fait plaisir.